faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Seigneur, nous sommes à tes pieds pour t'adorer. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour recevoir de toi. Nous sommes à tes pieds pour apprendre de toi. En ce jour particulier, Seigneur, de Pentecôte éternelle, nous sommes à tes pieds. Comme il y a de cela plus de 2000 ans, les disciples étaient là dans la chambre haute, à tes pieds, regardant à toi, Seigneur. Et ce jour-là, par ta puissance, tu les as inondés de ton esprit et remplis de toi. Ils sont devenus les témoins de ta parole, Seigneur Dieu. Et de par cette grâce et cette onction, la parole est arrivée jusqu'à nous à ce jour. Et tu nous as donné de te connaître. Seigneur, apprends-nous aussi à être à tes pieds, à rester devant toi, afin d'être plein de ton esprit, afin d'être rempli de toi et de mener à bien, Seigneur Dieu, la mission que tu nous as assignée sur cette terre. Seigneur, je t'en prie. Je t'en supplie, remplis-nous ce matin. Je sais que ta présence est là manifestée. Merci pour ta grâce divine. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu nous donnes. Conduis ces moments, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir favorablement cette parole. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur et nous rasseoir. Alléluia. Touche un voisin, dis-lui bonne célébration de Pentecôte. Dis comme le jour de la Pentecôte. Que le Seigneur t'inonde. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes toujours dans notre série sur l'amour. Et nous bénissons Dieu parce que l'étape que nous allons toucher, ou bien la façon dont je vais introduire l'enseignement du jour va nous donner de comprendre le sens ou bien l'impact de l'amour, amen, dans la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 6, je commence au verset 3. Bon, on va commencer même au verset 1 pour comprendre. Il est dit, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ce passage, c'est la croissance de l'Église. Amen. Et les attentes, ou bien les impératifs, qui sont les choses qui sont imposées à l'Église dans sa croissance. Lorsqu'on parle de l'Église des Actes des Apôtres, la première église, un des signes manifestes de cette église-là, c'était le caractère de l'amour. Amen. On dit qu'ils étaient d'un même cœur, ils partageaient tout ensemble. Puis lorsqu'on lit cela, on dit vraiment que Dieu nous donne de vivre cette vie-là dans le Seigneur. Amen. Souvent, les personnes, lorsqu'ils regardent cela, ils pensent que ça signifie qu'il n'y a pas de problème dans les églises. Non. Il y avait aussi quand même des gens bizarres. Il y avait les Ananias, il y avait les Saphira, qui malgré tout ce qu'on disait, la présence de Dieu, qui ne marchait pas droit selon l'évangile. Et puis la Bible dit que malgré l'amour, il est survenu au milieu d'eux des mésententes. ils ne s'entendaient pas sur certaines choses. On trouvait qu'il y avait un peu d'injustice dans la distribution des biens, tout ça. Bon, il y avait des petites pensées comme ça. Je ne dis pas que cela est normal. Amen. Mais cela nous montre toujours, lorsqu'il survient une difficulté, lorsqu'il survient un problème, que Dieu nous donne d'aller de l'avant. Amen. Parce qu'en résolvant le problème qui est posé, on arrive à mieux faire pour Dieu. Et les disciples, après avoir prié, ont compris qu'ils devaient mettre en place une organisation. Amen. Alléluia. Donc, ils ont mis en place une organisation. Et pour mettre en place cette organisation, ils ont fait une chose. Ils ont dit, bon, choisissez parmi les disciples des frères qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et puis de la sagesse. Amen. Remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Alléluia. Alléluia. On peut être rempli du Saint-Esprit sans être sage. Amen. On peut avoir l'onction, mais on n'est pas très sage. On connaît beaucoup ces cas dans nos églises, qui sont en onction, qui prophétisent, qui prient en langue puissamment, mais ils ne sont pas très sages. Donc, Pierre dit, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu aies l'onction même, et puis la sagesse. Amen. Mais l'Esprit de Dieu aussi rend sage. Je continue, il dit, je vais essayer des hommes. Donc, plein du Saint-Esprit et de sagesse. Et il continue. Et la Bible dit qu'ils ont prié, ils ont choisi des personnes, ils ont élu des personnes. Et on les cite. On arrive, on cite d'abord Étienne. On dit, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ça veut dire, ils ont choisi 6 personnes. Toutes ces personnes-là étaient remplies du Saint-Esprit. Mais parmi ces différentes personnes, Étienne était encore plein du Saint-Esprit. Rappelez-vous, la condition qu'ils avaient donnée pour les choisir, c'est que les gens que vous devez choisir, là, ils doivent être sages et puis pleins du Saint-Esprit. Et on arrive à Étienne, on dit, lui là, il était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que le degré du Saint-Esprit qui était dans sa vie, amen, était un peu supérieur à ce que les autres remplis aussi du Saint-Esprit avaient déjà sur eux. Je veux juste faire la remarque que l'onction de Dieu dans la vie d'une personne progresse, évolue. Amen. Pour ceux qui sont venus au programme de la semaine, qui était là dans la semaine? Qui n'était pas là? La plupart n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là, levez la main. Ceux qui étaient là, dites-leur, qu'est-ce que vous faites? Vous manquez toujours les bons moments. Mais pas toujours, vous manquez les bons moments. Amen. Nous avons eu 3 jours puissants ici. Vendredi, on était vraiment inondés de la présence de Dieu, inondés de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. La plénitude du Saint-Esprit augmente. Quand on dit rempli du Saint-Esprit, ça signifie que le vase qui a le Saint-Esprit est plein. C'est pas ça? Amen. Je prends un verre et je dis, il est rempli d'eau. Si je dis, il est rempli d'eau, ça signifie que je ne peux plus mettre de l'eau encore. Amen. On dit, prenez des hommes pleins du Saint-Esprit. Et puis après, on dit encore qu'il y a une autre personne qui est encore plus remplie encore que les autres. Alors, la différence ne vient pas du Saint-Esprit même, en fait. Mais ça vient de celui qui contient. Amen. Voilà. C'est un peu comme des différents verres. Vous avez des verres de différents volumes. Tu prends un petit verre, tu mets de l'eau là-dedans, il est rempli d'eau. Si tu as pris un petit verre, tu prends un plus grand verre ou bien un seau et tu le remplis, ce n'est pas la même quantité d'eau. Amen. Amen. Lorsque le seau d'eau est rempli, la plénitude qu'il a est supérieure à un verre d'eau qui est rempli. Alléluia. Et qu'est-ce qui contient le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit nous remplit davantage? Par 2 choses. Le développement de la sagesse en nous et le développement de l'amour. C'est-à-dire, plus tu deviens sage et plus tu aimes, plus tu peux recevoir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, de 2 frères, un qui est rempli et l'autre qui est rempli, il y aura une différence. Il y a un qui a un petit verre qui l'amène au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est rempli, il dit, tu es plein, ma fille. Voilà quelqu'un qui est ouin. Mais ton verre là, c'est comme c'est un petit verre, comme les verres de la Sainte-Seine. Donc, ta plénitude, il faut peut-être 50 fois ta plénitude pour atteindre la plénitude d'autres personnes. Amen. Qui offrent à Dieu un vase beaucoup plus grand. Des seaux. Il y en a même qui sont des barriques. Alléluia. Voilà, des conteneurs. Donc, conteneurs du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est pourquoi il ne faut pas, en ce qui concerne le Saint-Esprit, il ne faut pas nous contenter de ce qu'on a déjà, de ce qu'on ressent déjà, du niveau de prophétie, du niveau d'onction dans lequel on évolue. Amen. On doit toujours chercher à nous élargir nous-mêmes. pour que Dieu nous donne davantage. Amen. Pour que Dieu nous donne davantage et que nous serons davantage remplis. Et les trois jours de la semaine, on a dit ceci, que l'Église va entrer dans une nouvelle dimension de plénitude du Saint-Esprit. Pas que avant nos pasteurs, nos prédécesseurs n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu va faire augmenter la connaissance et Dieu va faire augmenter l'amour pour pouvoir nous donner encore plus du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Et l'onction de Dieu, pour nous qui a commencé à descendre depuis le mercredi dernier, elle a commencé à être manifestée dans l'Église. L'onction de Dieu va être très particulière. Elle va nous donner, comme je le disais la dernière fois, de sortir des quatre murs de nos églises. Amen. Jusqu'à présent, on a connu le Saint-Esprit dans le sens du parler en langue, des dons de prophétie, mais des dons de prophétie pour l'Église. Et la plupart des croyants voient Dieu, ou bien la manifestation de Dieu, le service de Dieu, dans tout ce qui concerne l'Église. Ils ne voient pas le Seigneur dans leurs activités de tous les jours. Amen. Ils ne voient pas le Seigneur comme un économe, un économiste. Ils ne voient pas le Seigneur comme un architecte. Et je dis que l'onction de Dieu qui vient et qui est là dans cette assemblée, qui est suspendue là, prêt à vous remplir, amen, en fonction de la manière dont vous allez comprendre la parole du jour et l'enseignement sur l'amour, l'onction qui est là va vous faire entrer dans une nouvelle dimension de plénitude. Amen. Plusieurs parmi nous étaient remplis du Saint-Esprit, mais Dieu va élargir ta contenance, amen, pour que tu reçoives quelque chose de nouveau. Donc, il ne faut pas dire, mais la dernière fois j'ai prié, Dieu m'a dit, j'étais rempli, tu es plein de mon esprit, tu es plein, c'est vrai, mais c'était avec un petit verre, alléluia. Maintenant, Dieu change le verre, alléluia. Maintenant, comment Dieu change le verre? Dieu change le verre par les enseignements que tu reçois. Dieu change le verre en augmentant ta sagesse, en augmentant ta connaissance. Ça veut dire que tu élargis ta capacité de comprendre certaines choses, en augmentant ton amour. Amen. Amen. Les trois jours, j'en ai parlé longuement. Mais pour que vous puissiez entrer dans cette dimension de l'onction qui va vous toucher dans tous les domaines de votre vie, vous devez absolument travailler votre amour. Amen. Cette onction dont je parle, cette nouvelle dimension dont je parle, on a eu quelques brins dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans le livre de Exode, par exemple, il dit, j'ai oint du Saint-Esprit cet artisan de Bézalel. Il dit, je l'ai rempli de mon esprit et je l'ai rempli du Saint-Esprit afin qu'il soit habile, un habile architecte. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit même rend excellent dans le domaine du travail. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour que vous parlez en langue riamba, chakara, bababa. Ça, c'est une dimension. Amen. Et j'expliquais que la Bible dit même que entre certains dons, le parler en langue est le plus petit. Ça veut dire qu'il y en a le plus grand. Amen. Le don de prophétie veut entrer dans vos affaires, dans votre comptabilité. Vous savez, si vous êtes comptable ou bien économiste avec l'onction de Dieu, ça fait une différence. Non seulement vous prophétisez, vous faites des choses extraordinaires à l'église, mais quand vous êtes avec votre collaborateur, avec vos patrons, vous êtes capable d'anticiper ce qui va arriver à la boîte. Ça, c'est la prophétie aussi. Vous dites, monsieur le DG, faites comme ça, faites comme ça. Aujourd'hui, monsieur le directeur, quand vous venez au boulot, habillez-vous comme ceci, habillez-vous comme cela. Le DG arrive, il dit, mais pourquoi? Il dit, faites seulement. Le DG arrive. Et quand il arrive, c'est le signe que quelqu'un demandait pour vous donner un gros marché. Ou bien, vous anticipez par l'esprit et vous savez quelle est l'attitude exacte que vous devez adopter. Vous prophétisez là-dessus, vous avez l'onction de connaissance, les révélations qui vous démarquent et qui vous fait vivre des choses extraordinaires. Vous savez, quelquefois pour signer un contrat, c'est juste une parole bien placée. Amen. Juste une impression qu'on donne à la personne qui nous rencontre. Et tout cela là, le Saint-Esprit nous rend habiles. Le don de prophétie intervient dans les affaires. Le don de prophétie intervient chez les artisans. Avec le Saint-Esprit, on peut être un excellent menuisier. Celui dont on parlait la dernière fois, le vendredi dernier, c'était quelqu'un qui était un architecte, qui faisait des ouvrages. Et il a fait les ouvrages par révélation. Conçu des chaises, des objets. Vous savez, Dieu est architecte, Dieu est économe, Dieu est styliste, Dieu est couturier. Tous les corps de métier existent en Dieu. Tout ce que les hommes ont découvert aujourd'hui comme corps de métier et qu'ils exercent n'a rien de comparable à ce qui se trouve au ciel. Dieu est le premier couturier. C'est lui qui a cousu l'habit d'Adam et Ève. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la couture, c'est Dieu. Et ne croyez pas que c'était un habit de peau, comme on dit dans la Fourandrelle, les Tarzan. Non. Adam n'était pas habillé en Tarzan avec une peau. Non. C'était un habit en cuir raffiné. Dieu a dit, j'ai pris la peau des animaux. Mais Dieu a raffiné le cuir. Et quand tu voyais Adam, non, c'est conçu par Dieu, mes amis. On dit, Adam, tu as chuté, mais Dieu ne t'a pas laissé tranquille. Hein? Il t'a habillé. Dieu a vêtu Ève. Dieu est couturier. Dieu est architecte. C'est lui qui révèle à Moïse comment concevoir le tabernacle. Tous les corps de métier existent en Dieu. Jusqu'à présent, les hommes les ont exercés sans la nouvelle dimension supérieure que nous allons recevoir. L'onction qui va venir va non seulement nous servir dans l'église, mais elle va nous amener à répandre l'excellence, la parole de Dieu, la gloire de Dieu dans tous les domaines d'activité. C'est parce que les hommes verront que comme avocat, comme comptable, comme menuisier, comme plombier, comme quoi encore, donnez-moi encore le métier, comme enseignant, comme journaliste, non seulement journaliste, comme médecin, vous avez quelque chose de plus, vous avez quelque chose de différent. Les patients viennent vous voir, lorsque vous les regardez, avant même d'avoir fait les analyses, Dieu vous révèle la parole de connaissance, voilà de quoi il souffre exactement. Et pendant que tu te révèles, pendant que tu parles, tu sais exactement les médicaments qu'il ne doit pas prendre. Tout le monde lui conseille, ceci va marcher pour toi. Tu dis, non mon ami, fais ceci, fais cela, fais ceci. C'est le don de guérison aussi. Amen. Il y en a qui croient que le don de guérison, c'est venir attraper les malades au nom de Jésus. Marche, marche. Ça, c'est le don de guérison. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible parle des dons de guérison au pluriel. Amen. Regarder une personne, être capable de dire son problème, guérir son âme, c'est la guérison. Alléluia. Le don de guérison même intervient même pour les choses matérielles. Quand quelque chose est gâté, vous priez, ça fonctionne. Là, vous avez guéri l'objet là. Amen. Amen. L'art, dans la mécanique, dans tous les domaines. Je reviens là-dessus. Parce qu'il faut que votre sagesse se déploie pour savoir que Dieu peut le faire. Amen. Mais si votre connaissance n'atteint pas cette dimension, ça veut dire que vous ne voyez pas Dieu dans tous ces domaines, vous n'allez pas vous prédisposer à le recevoir justement dans ce domaine. Parce que vous l'avez limité. Vous avez limité le Saint-Esprit à la communauté. Mais dehors, dans vos travaux de tous les jours, c'est votre expérience professionnelle, les études que vous avez faites. En fait, vous êtes comme tous les païens, vous travaillez, vous faites ce que vous pouvez faire, vous donnez le meilleur de vous-même. Mais ce temps-là est révolu pour les enfants de Dieu. Le temps est venu, amen, d'entrer dans cette nouvelle dimension. Et c'est ce qui va nous amener au sommet. C'est pour cela que dans les nations, les hommes ne pourront pas se passer de nous. Même si plusieurs ne voudront pas croire dans le Seigneur, mais ils vont savoir que lorsqu'une entreprise travaille avec un homme de Dieu, avec une servante de l'Éternel, il y a une différence. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord pour entrer avec moi dans cette dimension? Amen. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 17 dit ceci. On va même commencer un peu plus haut. Je commence au verset 14, il est dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dis avec moi, enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de parler déjà à des croyants. Et il leur dit ceci, vous devez travailler votre enracinement dans l'amour de Dieu. Amen. Il dit, plus vous serez enraciné dans l'amour de Christ, verset 18, il dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est très fort ce passage. Il dit que si vous êtes enraciné dans l'amour et que vous progressez dans l'amour et que vous commencez à comprendre la grandeur de l'amour de Christ, vous pourrez alors être rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, pour pouvoir être rempli de toute la plénitude de Dieu, il faut que je progresse dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Et il dit, cet amour-là surpasse toute connaissance. C'est-à-dire que lorsque je vais progresser, mon niveau de connaissance
va surpasser toute connaissance qui existe. La compréhension que j'ai des choses, la compréhension que j'aurai des choses sera supérieure à tout ce que les hommes ont pu avoir jusqu'à maintenant. Alléluia. Une connaissance supérieure. Nous sommes remplis de Dieu. Nous disons que Dieu est dans nos vies. Mais dans la pratique, il n'y a pas trop de différence entre nous et ceux qui n'adorent pas le Seigneur. Les problèmes qui les coincent, nous coincent aussi. Là où ils sont incapables d'agir, nous aussi nous sommes incapables d'agir. Mais lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a quelques fois où, quand l'humanité était bloquée, des hommes de Dieu avaient des sagesses et des connaissances qui surpassaient toutes celles qui existaient. Ils avaient des solutions extraordinaires. Et ces solutions, nous avons constaté, venaient du ciel. Quelqu'un comme Joseph, comme Daniel, comme David. Alléluia. Comme Salomon, merci bien, comme Salomon. Si la Bible dit que Salomon était extrêmement riche, vous savez, ce n'est pas que l'argent est tombé du ciel. Non. Il a développé un tel niveau de sagesse et de compréhension des choses qu'il a accumulé tellement de richesses qu'aucun homme avant lui, après lui, n'a atteint sa dimension de fortune. Parce qu'il comprend. Dieu lui a donné la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu comprends. Amen. Et Salomon a eu une connaissance supérieure à tous ceux qui étaient là à son époque. Maintenant, vous croyez que notre niveau de connaissance doit être inférieur à celui de Salomon? Non. Notre niveau de connaissance est censé être supérieur. Alléluia. Car je rappelle ce que j'ai cité dans la semaine et ce que j'ai dit souvent. La Bible dit que, amen, qu'il n'y a pas de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean, le prophète Jean-Baptiste. C'est-à-dire tous ceux qui sont nés avant Jean-Baptiste, amen, sont moins grands que Jean-Baptiste. Et le verset dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Or, c'est à partir de Jésus qu'il y a les petits dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, la Bible dit que si tu crois en Jésus, tu entres dans le royaume des cieux. Donc, le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est toi, c'est moi. Amen. La Bible dit, Jean est grand, mais le plus petit est plus grand que Jean. Or, Jean est plus grand que Salomon. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont nés avant lui, là, Jean est déjà dépassé. Amen. Donc, si Salomon avait de grandes choses, Jean est plus grand que Salomon. Jean est plus grand que Salomon parce que lui, au moins, il a connu Jésus. Ça veut dire la sagesse parfaite, l'illimité. Alléluia. Et la Bible dit, toi qui es né de nouveau, tu es plus grand que Jean. Donc, tu es plus grand que Salomon. Amen. Donc, ce qui est en Salomon est petit par rapport au potentiel qui est en toi. Le problème, c'est le verre, c'est le vase avec lequel tu dois contenir cette sagesse. Dieu doit élargir pour que tu puisses manifester. Ça veut dire, c'est grand, mais comme si on a... Là, Dieu dit, je vais faire tomber une grande pluie. Recueille l'eau et cette eau-là sera utile à tout ton entourage. Mais c'est quel verre ou bien quel vase vas-tu utiliser pour recueillir l'eau? C'est ce qui va faire la différence. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis abondamment. Mais qu'est-ce que nous présentons à Dieu? Et c'est ce que Éphésiens 3 nous révèle. Il dit, en fait, la clé c'est l'amour. Éphésiens 3 révèle que la clé c'est l'amour. Il dit l'amour de Christ. Si vous êtes enraciné dans l'amour, votre connaissance va se développer et surpasser toute autre connaissance. Amen. Donc connaissance, ça veut dire sagesse aussi. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous allez commencer à comprendre l'amour de Christ. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas trop la puissance de Jésus. C'est son amour. La longueur, la largeur, la profondeur de l'amour. Il dit, quand vous allez saisir cela, il dit, vous serez prêts d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Dis, je veux ces choses, Seigneur. Amen. Et je relis donc, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. Lorsqu'on dit donc l'amour de Christ, c'est l'amour que Christ portait. Il faut qu'on arrive à cette dimension, aimer les hommes comme Christ les aimait.
laisser l'amour remplir en nous comme l'amour qui était en Christ.
Alléluia. Donc il dit, qu'il surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc la plénitude de Dieu, la chasse, la sagesse de Dieu, la dimension nouvelle d'onction que l'Éternel est en train de déverser, qui est là, qui est suspendue, amen, qui est là dans notre vie, va être pleinement manifestée. Mais elle ne va se manifester qu'à une condition que nous décidions de travailler notre amour. Amen. Amen. Alléluia. Si le temps nous le permet, donc nous allons encore prier tout à l'heure par rapport au Saint-Esprit, à toujours être plein du Saint-Esprit. Mais l'effort physique que nous avons à faire maintenant pour entrer dans cette dimension de plénitude, c'est de travailler notre connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu sera développée par notre progression dans l'amour. C'est-à-dire, plus je travaille à comprendre l'amour, ça signifie quoi? Si, selon ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13, toute personne à qui j'en veux, parce qu'elle m'a fait souffrir, est une image que Dieu m'amène pour me faire comprendre la frontière actuelle de mon amour, de mon niveau d'amour. Amen. La Bible dit, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Donc, s'il y a des choses que je n'arrive pas à pardonner, ça signifie tout simplement que voilà ta limite actuelle. Donc, pour connaître ta limite actuelle, il est important que Dieu permette à ce que quelqu'un te fasse du mal. C'est important. Donc, parce que quelqu'un va te faire du mal et tu vas réagir, tu sauras à cause de cette personne pourquoi Dieu te demande de croire dans l'amour. Tu sais, si tu n'as aucun adversaire, si personne ne te fait souffrir, tu ne sauras pas où est ta frontière et tu ne vas pas chercher à croître. Si tu t'entends avec tout le monde, tu vas dire, parce que moi, je n'ai pas de problème à l'amour. J'aime tout le monde. Dieu dit, ma fille, tu dois croître. Tu dis, Seigneur, est-ce que j'ai un ennemi? Il dit, c'est vrai, tu n'en as pas. Mais attends, je vais te susciter un. C'est pas que Dieu va l'envoyer, mais depuis longtemps, Satan cherchait à t'atteindre. Alors, subitement, quelqu'un, peut-être une copine assez bizarre, un ami en qui tu avais confiance, va te... Voilà, on va l'appeler Gaspard. En qui tu avais confiance, va te faire un coup bas. Vous allez investir un projet, il va détourner tous les fonds. Tu avais vraiment confiance en lui. Et en ce moment-là, ton cœur va réagir. Et dès que tu commences à réagir, le Seigneur te rappelle l'enseignement. Voilà ta limite. L'amour pardonne tout. Mais les hommes comme Gaspard, comme ça, les traites de ce genre, tu n'arrives pas à leur pardonner. Donc, toi, ton amour ne pardonne pas tout. Tu pardonnes certaines offenses, mais pas la trahison. Tu vois? Donc, alléluia. L'amour de Christ a été capable de pardonner la trahison, au point où il est capable de dire à Judas, mon ami. Or, le passage nous dit, afin que nous puissions connaître l'amour de Christ. C'est-à-dire, comment Jésus a pu aimer, au point où quelqu'un à qui il a passé la vie à faire du bien, à aider, qui se lève, qui va vendre Jésus. Amen. Cette personne-là va jusqu'à vendre Jésus, et Jésus est capable de s'arrêter devant ce dernier, lui faire la bise, et lui dire, mon ami. Amen. Alléluia. Comment Jésus a-t-il pu dire à la croix, Seigneur, pardonne à cette foule parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. La foule l'avait humilié. Jésus avait été pendu à la croix nu. Mes amis, Jésus, c'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. Ça veut dire, la terre, c'est lui qui l'a faite. Ses hommes, il les a créés. Une seule de ses paroles et eux tous sont exécutés. C'est-à-dire, ils sont morts. Mais par amour, il a laissé ses hommes l'humilier. Les disciples ne pouvaient pas supporter parce qu'ils savaient que c'était Dieu. C'est Dieu qu'on traite comme ça. Mais est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Et puis Jésus laisse faire. Un grand comme ça. Mes amis, je vous assure, Jésus n'était même pas en caleçon. Lorsqu'on dit qu'on a pris ses habits, on a vraiment pris ses vêtements, mes amis. Imaginez-vous. Vous voyez comment nous on respecte Jésus? Est-ce que vous pouvez l'imaginer dans cet état-là, dans la rue? Devant les enfants, les femmes, puis les gens rient, on l'insulte. Quelqu'un qui vous a jamais fait le mal? Qui a prié pour vos malades? Les malades ont reçu la guérison? Entre un brigand et Jésus, la foule a choisi le brigand. Et le monsieur n'est jamais rentré dans votre maison pour vous piller. Il a donné des idées. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec son message. Mais préférez libérer un voleur et lui demander sa mort. C'est vraiment méchant. Mais Jésus est sur la croix. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. T'es avec moi, c'est possible. Bon, ça, c'est l'amour de Christ. Nous, on veut tendre vers ça. Amen. D'ailleurs, même, on va l'atteindre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons avoir cette révélation. Et plus nous progressons dans cette révélation, plus nous recevons une connaissance supérieure. Nous devenons plus sages que ce qui existe comme sagesse. L'amour révèle le véritable potentiel, le véritable trésor que Dieu a caché en chaque homme. Satan amène les hommes à se détester parce qu'il ne veut pas que les hommes découvrent ce que Dieu a déposé en eux. On a lu la dernière fois un passage, la Bible dit que Dieu a enfoui dans l'homme un trésor. C'est ce trésor-là contre lequel le diable lutte. C'est pourquoi il est contre ta vie. C'est pourquoi il est contre toi. Il est important que tu, pour Satan, il est important que tu détestes certaines personnes. Parce que tant que tu vas haïr, tant que tu ne pardonneras pas, tant que tu restes dans cette dimension, tu ne trouveras pas qui tu es. Et tu ne retrouveras pas le trésor qui est en toi. Tu seras aveuglé. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'aime pas est aveugle. Mais il est aveugle par rapport à quoi? Ça veut dire, Dieu dit, quand tu n'aimes pas, il y a une chose que tu ne vois pas. Pour pouvoir voir, il faut aimer cette dernière personne qui t'a fait souffrir. Parce qu'elle n'est que la bénédiction de Dieu, elle n'est que la révélation qui montre ta frontière. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a déjà vu dans son esprit ses frontières? Donc allez saluer vos frontières personnelles. Dis mon ami, c'est toi là qui est mon challenge. Si j'arrive à t'aimer et à te pardonner, ma connaissance va augmenter. Dis, que Dieu te bénisse, frère. Ce que tu m'as fait, il y a des gens, en ce moment, quand vous pensez là, vous avez vraiment envie de les mettre en prison. Tu dis, Seigneur, ce qu'il a fait là, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. On ne peut même pas laisser. Dieu dit, il faut laisser. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Et tu as même d'aimer, de pardonner, si tu écoutes constamment ce genre de message, ça va petit à petit mettre en toi la force. Ce n'est pas parce que tu comprends le message que tu vas forcément changer, mais c'est parce que tu les réécoutes chaque fois. Ça change progressivement ta manière d'être, ta manière de concevoir le monde, ta manière de penser les choses. Et ça te permet de passer tes propres limites et de grandir avec ton Dieu. Dis avec moi, aimer. Amen. Et nous avons dit ceci, donc toutes les autres fois, que l'amour de Dieu, l'amour de Christ n'est pas un sentiment, ce ne sont pas des émotions. Comment aimer? Et c'est ce que nous sommes en train de voir, comment aimer. Et je vous ai dit la dernière fois que nous sommes en train d'étudier, donc 5 choix à faire, ou 5 décisions à prendre pour manifester l'amour. Donc l'amour dont je suis en train de parler, pour pouvoir le manifester, il ne faut pas simplement prier, Seigneur, donne-moi l'amour. Amen. Il faut prier, c'est vrai. Mais il y a des actions à poser. Les actions que vous allez poser, vous allez quelquefois les faire sans en avoir envie. Vous allez devoir les faire même si c'est difficile. Vous allez devoir les faire même si vous ne le sentez pas la force ou bien l'envie ou le sentiment de le faire. Vous les faites simplement par obéissance à Dieu. Et quand vous allez poser ces actes, ce qui va se produire, c'est que vos sentiments vont commencer à suivre. Et votre attitude, votre envie va commencer à suivre. Donc au départ, tu n'auras toujours pas envie de faire du bien à celui qui t'a fait le mal. Tu ne vas pas avoir envie, je dis. Amen. Maintenant, l'envie va venir après. Donc, quand je dis d'aimer Gaspard qui t'a fait souffrir, je ne parle pas à ton désir de lui faire du bien. Parce que avec ce qu'il t'a fait, tu ne peux pas avoir le désir. Tu ne peux pas avoir le désir. Donc, ne recherche pas d'abord le désir de lui faire le bien. Ça ne commence pas comme ça. Recherche à obéir à certaines choses. Si tu le fais, le désir va venir après. Amen. Et la première des choses à faire, c'est d'abord même aimer Dieu lui-même. Comment on aime Dieu? C'est aussi 5 choix. Alléluia. 5 décisions à prendre. Lorsqu'on va appliquer ces 5 décisions, voilà ce qui va se passer. C'est que physiquement même, on va manifester de l'amour pour Dieu. Comment l'amour, on peut dire Eros, l'amour physique se manifeste pour Dieu. Une personne aime Dieu visiblement, physiquement, lorsqu'on voit son zèle pour Dieu. Tout ce qui est action physique. Quelqu'un qui vient toujours à l'église, alléluia, qui aime, par exemple, tout ce qui est geste physique pour Dieu, traduit l'amour, tout ce qui est désir physique pour Dieu. Amen. J'aime aller dans la maison de Dieu. Lorsqu'on demande de soulever les chaises pour Dieu, je veux le faire. Ça, ce sont des gestes d'amour physique pour Dieu. Mais l'amour ne commence pas par là. Amen. Par des gestes d'amour physique pour Dieu. Non. Si votre attachement à Dieu commence par ces gestes-là, ça ne va pas perdurer dans le temps. Après 5 ans dans l'église, vous n'aurez plus la force de faire les mêmes œuvres-là pour votre Dieu. Ne commence pas par là. Mais continue, si tu le fais, fais-le. Amen. Et puis vous avez l'amour dans l'âme pour Dieu. L'amour dans l'âme, ça se traduit par les sentiments. Vous voyez, qu'une personne, lorsqu'on parle de Dieu, elle est enthousiaste, elle pleure, j'aime Jésus. Et tu sens dans ton cœur une chaleur quand tu penses, quand on te dit le nom de Jésus là, ton cœur chauffe. Ça, c'est l'amour émotionnel. Ce sont les sentiments. Amen. C'est ce qui vous donne de la force dans votre adoration. Ce n'est pas mauvais. C'est bon, mais je dis, l'amour de Dieu ne commence pas là. Toutes ces choses-là, le physique comme l'émotionnel, doit être contrôlé. Amen. L'amour de Dieu qui ne finit jamais, qui continue de grandir, qui pardonne tout. Parce que la chair ne peut pas tout pardonner. L'âme ne pardonne pas tout. Donc pour que mon âme puisse tout pardonner, pour que ma chair puisse toujours être zélée physiquement pour Dieu, il faut que je travaille mon esprit. Et je travaille mon esprit avec 5 éléments. La première des choses, on a étudié la dernière fois, c'est que je dois décider, je dois choisir volontairement de servir Dieu. Commence par ça. C'est-à-dire, tu fais le choix délibéré que entre le monde et Dieu, toi, tu as fait un choix. Il faut faire un choix. Amen. Il faut faire une distinction. Alléluia. Ça, ce fut ce que nous avons dit dimanche dernier. Donc, premier choix à faire, c'est quoi? Voilà, prendre la décision. Choisissez de servir Dieu. Dans la première décision, choisissez de servir Dieu. Il y a les éléments suivants là que je n'ai pas traités la dernière fois. Donc, première chose, premier choix à faire, choisissez de servir Dieu. Et il y a environ 5 choses à retenir là-dedans. Il faut servir Dieu par choix. C'est ce que nous avons traité la dernière fois. Il faut servir Dieu en tout et pour tout. Il faut décider, il faut choisir de servir Dieu en tout et pour tout. Il faut choisir de faire des sacrifices pour Dieu. Amen. Il faut choisir de faire les choses avec excellence. Touchons-les point par point. Je suis toujours dans la première clé de l'amour. Je suis toujours dans la première attitude qui va créer en moi l'amour de Dieu qui ne va jamais finir. Donc, pour créer en moi l'amour de Dieu qui ne va jamais finir, je n'ai pas besoin de ressentir, je fais tout simplement un choix. Comme là, en ce moment, je suis en train de choisir de soulever cette montre, de la prendre, ou je décide de soulever cette Bible. C'est un choix, personne ne me contraint, j'ai la liberté de choisir. Dieu vous donne la liberté de choisir. Si vous voulez, tout de suite, vous pouvez lever votre main. Rien ne va l'empêcher. Levez la main. Ok? Dieu a donné à l'homme la liberté. Donc cette liberté que vous avez de vous mouvoir est la même liberté qui caractérise les choix que vous faites vis-à-vis de Dieu. Donc vous choisissez délibérément, volontairement de servir Dieu. Ça c'est le premier choix. Maintenant, choisir de servir Dieu, on peut le subdiviser dans ces éléments. Amen. La deuxième chose à faire dans le choix de servir Dieu, c'est servir Dieu en tout et pour tout. Servir Dieu en tout et pour tout. Colossiens chapitre 3, verset 23, dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc, dis avec moi tout. Tout ce que je fais, je dois le faire pour le Seigneur. Alléluia. Ça aussi, c'est choisir de servir Dieu. Choisir de servir Dieu, c'est utiliser mon pouvoir du choix. Choisir de servir Dieu, c'est décider, c'est choisir que tout ce que je fais, je dois le faire pour Dieu, selon ce que ce passage vient de me dire. C'est quoi tout ce que je fais? C'est mon travail, aller au boulot.
je dois le faire pour Dieu. Choisir de servir Dieu en tout et pour tout, c'est mes relations avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants. Je dois réagir, je dois faire tout chose pour Dieu. Amen. Concrètement, ça signifie que aimer Dieu, hein, je dois décider que quand je pars au travail, ce n'est pas d'abord pour un salaire. Bien sûr, on va me payer. Mais je considère que ce que je suis en train de faire là, je suis en train aussi de servir Dieu par mon boulot. Amen. C'est le service de Dieu. Je suis en train de vous expliquer que servir Dieu ne consiste pas seulement dans les activités dans l'église, qu'on fait à l'église. Ne croyez pas que lorsque vous avez quitté le bâtiment, vous avez quitté le culte, vous êtes dans la vie normale et que vous n'êtes plus en train de servir Dieu. Non, vous servez Dieu. Si vous avez cette conscience-là, que vous êtes en train de servir Dieu en toutes choses, même lorsque vous marchez, quand vous parlez avec les personnes, vous allez faire attention parce que vous allez donner la même attention que vous le donnez, que vous faites lorsque vous êtes dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, servez Dieu pour toutes choses. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que tu fais, tu dois voir Dieu. Tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu, pas pour un homme. Tu es avec un patron, il te donne des exigences, mais tu dois le faire pour Dieu. Tu dois voir Dieu dans toutes les choses de la vie, car c'est lui qui a tout créé. Dieu n'a pas créé seulement les églises. Alléluia. Donc, Dieu ne se limite pas à la communauté chrétienne. Dieu a créé tout ce qui existe sur la terre. Amen. Dieu a créé les arbres. Donc, si tu es agronome, tu es en train de servir Dieu. Dieu a créé les plantes. Si tu travailles à l'embellissement des plantes, tu es en train de servir Dieu. Amen. Mais si dans ta pensée, quand tu es en train de faire l'agriculture, c'est juste l'agriculture, et servir Dieu, c'est quand on vient au temple, tu ne comprends pas encore bien l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, tu ne vas pas servir comme agronome, comme menuisier, juste pour avoir de l'argent, mais tu vas le faire parce que c'est pour Dieu. C'est pour Dieu que tu le fais. Amen. Ça, c'est un choix que vous devez prendre, que vous devez faire. Quand vous choisissez de servir Dieu, ça signifie que vous faites le choix de tout faire pour Dieu. Ça signifie troisièmement, choisir de servir Dieu, ça signifie troisièmement que vous ne vous servez pas de Dieu. Vous ne vous servez pas de Dieu. Se servir de Dieu, c'est utiliser Dieu pour atteindre ses propres objectifs. Je dis, le premier choix à faire, c'est choisir de servir Dieu. Tu dois choisir de servir Dieu. Comment choisir de servir Dieu? C'est choisir de le servir en toute chose. Comment choisir de servir Dieu? C'est ne pas se servir de Dieu. Ne pas chercher Dieu pour ton mariage. Ne pas chercher Dieu pour qu'il te donne du travail. Ne pas avoir du zèle à venir dans l'église pour obtenir quelque chose. Alléluia. Vendredi, lorsqu'on a fini le culte du soir, de célébration, je dis, la question qu'on doit se poser lorsqu'on vient à nos réunions, lorsqu'on vient à nos cultes, c'est pour savoir si on a été béni pendant le moment. Si tout de suite vous finissez le culte et que vous rentrez chez vous, les gens posent, ah, comment était votre culte? Ah, et vraiment, on a été béni aujourd'hui. C'est vrai. Mais le but du culte n'est pas de te bénir toi. Le but du culte, c'est de faire plaisir à Dieu. Un culte est réussi lorsque le cœur de Dieu est content. Pas lorsque toi tu es content. Tu n'es pas le héros du film. C'est-à-dire que l'église n'est pas là pour te faire plaisir. L'église est là pour faire plaisir à Dieu. Amen. Donc il y a certains qui se servent de l'église pour leur bonheur personnel. Ces personnes-là ne servent pas Dieu, mais elles se servent de Dieu. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je vais aller à l'église, peut-être un message va m'édifier. Non. Tu es en train de te servir de Dieu pour régler tes problèmes personnels. La Bible dit de servir Dieu. Si tu commences en te disant, ah, je ne me sens pas bien aujourd'hui, mais Dieu a besoin de mon service. Dieu a envie d'entendre ma louange. J'ai mal aux pieds, j'ai un palud, mais quand même, je vais aller le servir. Ce sont des petites actions comme ça
qui marque et qui touche profondément le cœur du Seigneur. Une fois, je ne sais pas, mais j'étais très malade. J'avais un palu, une fièvre terrible. En ce temps-là, j'étais encore chez mes parents. Je ne pouvais pas aller à l'église. On m'interdisait d'aller à l'église. Comme j'ai une famille musulmane. Et ce jour-là, mon père était parti en mission. Je regarde mon corps, elle a la fièvre. Je dis, le jour où j'ai l'opportunité d'être dans la maison de Dieu, pour célébrer Dieu, toi, un palu, tu veux me retenir. Mes amis, je suis parti tout grelottant. Juste pour être dans sa présence pour le célébrer. Tellement mon corps chauffait. Je ne peux même pas rester assis même sur la chaise. Pour pouvoir entendre la parole de Dieu, je suis parti me coucher sur un banc à l'extérieur. Je me suis étendu là-dessus pour dire, Jésus, je t'aime. Amen. Aide le corps grelottant. Bon, je n'ai pas dit de faire comme moi. Amen. Si tu es malade, va à l'hôpital. Gloire à Dieu. Hein? Traite-toi. Mais, amen. Vous ne devez pas, vous devez, on doit servir Dieu. On ne doit pas se servir de Dieu. On vient à l'église pour Jésus, pas pour nous. Ça veut dire, Dieu explique quoi? C'est très important. L'amour qui va vous remplir, qui va vous donner toute connaissance, vient de Dieu. Donc Dieu est l'origine de tout. Si vous vous prenez vous-même comme le centre de tout, c'est-à-dire vous faites converger tout vers vous, vous allez être non seulement saturé, épuisé, parce que, en fait, vous ne tiendrez pas, parce que vous n'êtes pas la source de l'amour. Ce n'est pas comme si l'homme a l'amour en lui. L'amour vient de Dieu. Amen. Donc, pour que moi-même, j'ai la santé, j'ai l'amour, je sois bien, il faut toujours que je commence par lui, Dieu. Il est la source de la vie. Je dois me connecter à lui. Mais si je centralise tout sur moi, c'est un peu comme si moi-même, j'étais le commencement. C'est un peu comme si, inconsciemment, je disais dans ma parole, dans ma bouche, au commencement, moi. Et Dieu doit se disposer à me faire du bien. Si j'arrive dans l'église et qu'on ne m'a pas fait du bien, je ne viens plus. C'est qu'à l'église, on vient, on n'est pas édifié. Non. La question à se poser, c'est plutôt, qu'est-ce que moi, j'apporte à Dieu? Lorsque je vois qu'il y a un problème quelque part, qu'est-ce que je fais pour que Dieu soit satisfait? Je ne fuis pas un endroit parce que moi, je ne suis pas satisfait. Le problème, c'est que si j'arrive dans l'endroit, ce n'est pas le fait que je sois satisfait ou pas, c'est le fait de demander, est-ce que tu me veux là? Hein? Et c'est vrai que l'endroit ne me satisfait pas. Peut-être que ça ne te plaît pas aussi à toi. Qu'est-ce que je peux faire pour que cela te soit agréable? Celui qui décide de servir Dieu n'ira pas donc dans les endroits qui lui font plaisir. Il va essayer de faire les choses pour faire plaisir au roi des rois. Amen. Décider de servir Dieu, c'est choisir volontairement d'être au service de Dieu en toutes choses et non d'utiliser Dieu pour se servir. Et quand, lorsqu'on avait parlé de cela la dernière fois, j'avais donné l'exemple de Exode 32, lisse avec le veau d'or. Amen. Ne vous servez pas de Dieu. Israël a voulu se servir de Dieu lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or. Ils ont appelé le veau d'or l'Éternel. Mais un veau, c'est un animal qui sert l'homme. Ils ont vu Dieu comme étant à leur disposition. On dit, Dieu, mets-toi à ma disposition. Quand j'écris, apparaît. Quand je pleure, sois là. Mets-toi à ma disposition. Dieu ne se met pas à ta disposition. Toi, mets-toi à la disposition de Dieu. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et nous avions dit aussi, décider de servir Dieu. Nous sommes toujours dans le premier choix. Décider de servir Dieu, c'est de prendre garde à ne pas servir mammon. C'est une déduction logique du sujet que je viens de traiter. Mammon, c'est l'argent. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen. Amen. Donc, une fois, dans ce passage, Jésus parle de le servir. Et il met en comparaison servir Dieu et servir mammon. Jamais vous ne verrez ça dans la Bible. Dieu dit pas, choisissez Satan ou moi. Non. Les hommes choisissent pas Satan. Les hommes choisissent généralement de suivre mammon. Mais comme maman travaille avec le diable, donc, sinon normalement, là, qui aime Satan? Mais Satan ne cherche pas que vous l'aimiez. Vous voyez, non? Satan, il vous oblige à être avec lui. Il vous contraint. En vous présentant des choses qui vous font plaisir, il dit, moi, je suis à votre disposition. Moi, je vous donne le bonheur. C'est ce que le diable dit. Mais sinon, ce n'est pas comme ça. Bon, à part certains satanistes, hein, voilà. Tu regardes entre Dieu, Satan, et puis volontairement, délibérément, tu as le diable, non. Jésus dit, prenez garde à ne pas servir maman. Et maman, c'est l'argent. Et la dernière fois, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Vous pouvez reprendre les CD qui ont été faits là-dessus et les réécouter. Le Seigneur nous montre ceci, il dit, ah, ça c'est très important, mes frères. Il dit, ne travaillez pas, n'agissez pas, ne servez pas pour obtenir de l'argent. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être rémunéré. Vous serez rémunéré. Au-delà de ce que vous attendez, si vous travaillez pour faire plaisir à Dieu, c'est ce qu'il explique. Amen. Amen. Si je suis menuisier, que je travaille pour l'argent, je vais tout faire pour que dans ma vente, je maximise mon profit. Vous me suivez? Donc en réalité, je ne suis pas en train de servir le monsieur à qui je vais donner la chaise, mais je me sers moi. Et c'est son argent même qui m'intéresse. Servir Dieu, c'est, Seigneur, je vais faire la chaise. Je vais faire le maximum de moi. C'est vrai que pour faire, il va me donner quand même de l'argent. Mais mon esprit en faisant l'objet là, c'est vraiment faire quelque chose qui honore Dieu et qui est utile à l'homme. C'est-à-dire, je ne raisonne pas en termes de profit financier, mais je raisonne en termes d'excellence. En termes de bien faire ce que je fais pour que ceux qui les utilisent soient satisfaire. Amen. Quitte à réduire ma marge bénéficiaire. Bien sûr, je ne vais pas le faire à perte. Parce que sinon, je ne pourrais même pas le faire la prochaine fois. Si je veux refaire encore ma chaise, si je veux encore servir demain, il faut quand même qu'il y ait un minimum. Mais je suis prêt, moi, à me priver, n'est-ce pas, de 1000 francs, de bénéfices de 2000 francs pour l'excellence. C'est-à-dire, je favorise le service au lieu de l'argent. Servir maman, c'est le mettre devant. Amen. Si je travaille dans un bureau, je vais faire en sorte que mon travail soit bien fait. Or, celui qui sert maman va travailler, va faire le minimum pour avoir le salaire. Celui qui sert Dieu, ce qui importe pour lui, c'est que le travail soit bien fait. Celui qui sert maman, c'est qu'il ait son salaire à la fin du mois. Donc, quelquefois, lorsque la personne est ménagère, lorsque la personne, elle va tricher avec le travail. À la fin du mois, mon salaire. Si la personne sert maman, elle va aller en retard au boulot. Mais ce qui importe à la fin, son salaire. Vous suivez? Si la personne sert Dieu, c'est pas le salaire d'abord qu'elle recherche. C'est l'excellence. Et pour qu'elle soit excellente, il faut qu'elle soit ponctuelle. Pour qu'elle soit excellente, il faut qu'elle arrive tôt, qu'elle regarde le travail et qu'elle le fasse bien. Qu'est-ce qui challenge votre cœur? Il faut que vous vous jugiez vous-même. Et que vous remarquez, qu'est-ce qui vous motive lorsque vous travaillez, lorsque vous posez des actions, lorsque vous faites la couture, lorsque vous êtes menuisier, lorsque vous êtes plombier? Est-ce que c'est le désir de bien faire ou c'est le désir de vous faire maintenant de l'argent? Si vous désirez maintenant vous faire de l'argent, vous êtes en train de servir maman. Si vous désirez bien faire, vous servez Dieu. Et si vous servez Dieu, vous allez voir que l'abondance même Dieu va vous la donner. Amen. Car la Bible dit que quand tu vois un homme qui est habile et qui fait bien les choses, il se soit toujours auprès des gens élevés. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, décider de servir Dieu, c'est servir Dieu et non maman. On ne peut pas servir Dieu et servir maman. Si tu sers maman, tu ne vas pas servir Dieu. Si tu sers Dieu, tu ne pourras pas servir maman. Et maman, c'est le symbole de l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et juste pour terminer ce premier choix, ne servez pas par esprit de comparaison. Servir Dieu, c'est toujours dans le premier choix, j'ai choisi de servir Dieu. Servir Dieu ne se fait pas par comparaison. S'il y a une seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est vous-même. C'est-à-dire par rapport aux choses que Dieu attend de vous. Vous ne pouvez pas servir Dieu
et dire que votre service est excellent parce que vous avez mieux fait que Bernard. Alléluia. Alléluia. Les limites que vous avez ne sont pas les autres. Les autres ne sont pas pour vous le barème d'évaluation. Amen. Et nos enfants, malheureusement, sont éduqués dans cet esprit. C'est ce qui mène dans notre monde plein de haine, plein de jalousie, plein de désir de détruire l'autre. En classe, on va aller en disant, on félicite notre enfant parce qu'il est premier de la classe. Est-ce que vous savez que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dire, ma fille a été première de la classe, donc je vais lui faire un cadeau. Le but n'était pas qu'elle soit première. Le but, c'est qu'elle donne le meilleur d'elle-même. C'est-à-dire, si ta fille est capable d'avoir 17 de moyenne, qu'elle a 12 de moyenne et qu'elle est première de la classe, elle a mal travaillé. Son potentiel, c'est 17. Ne cherche pas 12. Le but, ce n'est pas qu'elle soit la première de la classe. Le but, c'est qu'elle donne ce qu'il y a de meilleur en elle. Si elle travaille pour être première, elle va juste regarder ce que le deuxième est en train de faire et puis elle va essayer de faire mieux. Ça, ce n'est pas servir Dieu. C'est servir par comparaison. L'amour de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu ne va pas te juger par rapport à l'autre. Dieu sait ce qu'il t'a donné. Dieu va dire, mais moi, je t'ai donné une intelligence qui donne 18 de moyenne. Toi, tu es parti prendre 13 de moyenne parce que la seconde, elle a 11. Je ne te félicite pas. Je ne te félicite pas. Quand vous remettez de l'argent à quelqu'un pour aller faire un service, vous ne vous demandez pas s'il a mieux fait que les autres. Non. Vous dites, mais comment tu as géré le bien que je t'ai donné? Je sais ce que je t'ai donné et je sais ce que ça va rapporter en retour. Et tu me dis, oui, je n'ai pas tout amené, mais quand même, j'ai mieux fait que l'autre. Et tu donnes de l'argent à une personne, tu dis, bon, on va m'acheter une belle voiture, une Mercedes, quelque chose comme ça. Et puis, il regarde toutes les voitures d'Abidjan. Et par rapport à cela, il fait quelque chose qui est juste mieux. Or, la voiture que tu voulais coûtait deux fois, trois fois plus, par exemple. Il va te dire, non, ce que j'ai pris, c'est la meilleure voiture. Mais le reste de l'argent, qu'en as-tu fait? Or, ce n'est pas utile. Le plus important, c'est que tu aies ce qui était meilleur. Vous voyez, ça, c'est une erreur. Vous ne pouvez pas servir Dieu par esprit de comparaison. Dieu se sert directement. Amen. C'est ce qui a induit Caïn dans l'erreur. Caïn s'est comparé à Abel. Lorsque Dieu a apprécié l'offrande d'Abel et Dieu a déprécié l'offrande de Caïn, Caïn a tué Abel. Pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn? Parce que dans son esprit, il y avait un petit concours. Qui va plaire à Dieu? Ton offrande ou mon offrande? On dit c'est Abel qui est passé. Pourquoi Abel? Alléluia. Or, Dieu ne nous juge jamais par rapport aux autres. C'est une semence du diable et vous devez changer l'éducation de vos enfants. Ne cherchez pas à ce que vos enfants soient premiers. Cherchez à ce qu'ils soient les meilleurs pour eux-mêmes. Amen. Ça peut les conduire être premiers de la classe, mais ce n'est pas ce qui importe. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si je dis que mon enfant, c'est son potentiel, je dois savoir. Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme connaissance? Qu'est-ce qu'il est capable de faire en maths, en physique? Quel est ça, son vrai niveau? Quel est son vrai potentiel? Et c'est ce qui m'amène à l'évaluer, à le faire avancer. Alléluia. 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 Si tu as saisi ces choses, acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Donc dimanche prochain. Amen. Je pense qu'on pourra finir tous les autres choix. Donc je choisis de servir Dieu. C'est un choix délibéré, c'est volontaire. Choisir de servir Dieu, c'est considérer que je sers Dieu dans tout ce que je fais. Professionnellement, spirituellement, d'abord spirituellement dans l'église, professionnellement, socialement, familialement, ma famille, dans tout ce que je fais, tout ça c'est pour Dieu. Amen. Je décide dans servir Dieu, c'est moi qui suis le boy de Dieu et non Dieu qui est à mon service. Je dois faire attention à cela. Je viens à l'église pour recevoir ou pour donner. Je viens à l'église pour apporter quelque chose à Dieu ou pour que Dieu me donne. C'est comme ça que je raisonne. Amen. Servir Dieu, celui qui sert, c'est celui qui offre. C'est pas celui qui reçoit. Donc, je dois me mettre dans la posture d'apporter et non de recevoir. Je dois me mettre dans la posture de servir pour bien faire pour Dieu et non pour la rémunération matérielle, financière qu'on va me donner. Et je dois le servir sans esprit de comparaison. Par rapport à ce que Dieu m'a donné moi-même, je le fais. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces aspects-là qui donnent le sens de servir Dieu. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier par rapport à ce que Dieu nous a dit.
Alors ce matin, tu as pu découvrir encore quelques limites en ce qui concerne ton amour pour Dieu. Et comme je te l'ai dit, l'amour doit croître. Et si l'amour progresse, alors il brise certaines barrières. Le vase que tu es augmente et Dieu est capable de te remplir davantage de son esprit. Prions l'Éternel, prions l'Éternel. Que chacun prie pour la parole qu'il vient d'entendre. Seigneur, c'est en son image que nous sommes transformés lorsque nous nous tenons dans ta présence. En ton image, Éternel Dieu. Merci parce que nous te contemplons au travers de ta parole, au travers de ce que tu dis. Et pendant que nous contemplons ta parole, nous sommes transformés en la même image, en des hommes patients, doux, Seigneur Dieu, parce que nous apprenons vraiment à te servir. Nous avons décidé de te servir. Seigneur, aide-nous dans ce service. Oh Dieu, à te mettre à la première place, à chercher, Seigneur Dieu, à faire les choses pour toi. Éternel, béni sois-tu parce que tu accomplis ces choses dans nos vies, dans le nom de Jésus. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Chaque fois que tu entends ces paroles, le vase que tu es s'agrandit. La Bible dit que nous sommes des vases. Et ici, nous nous appelons vases d'honneur. Nous voulons faire grandir le contenu, le contenant que nous sommes, afin d'être davantage remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la Pentecôte. Je ne veux pas prier longuement, mais je prophétise que vous soyez remplis de l'amour de Christ et que vous soyez pleins de toute la plénitude de Dieu. Selon ce qui est dit en Éphésiens chapitre 3, je prophétise que Dieu vous inonde de sa plénitude et que par la plénitude du Saint-Esprit, vous connaissiez les choses, vous grandissez en sagesse, en connaissance et que votre vie devienne une véritable bénédiction pour l'humanité dans le nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, les frontières de votre âme, les frontières de votre corps, vos frontières émotionnelles, vos frontières au niveau de l'amour sont brisées. Dieu élargit les frontières, Dieu élargit les limites. Il vous rend capable de passer ce qui vous limitait auparavant. Et parce que vous passez cela, vous êtes inondé encore davantage de la vie de Dieu. Inondé du Saint-Esprit, inondé de la plénitude de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'intelligence. Car c'est la nouvelle dimension d'onction dans laquelle le Seigneur conduit son Église, conduit ses enfants. Ah, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu vas y arriver. Ne dis pas, mais comment je peux appliquer tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Moi, je ne compte pas sur ta chair, je compte sur le Saint-Esprit qui est sur toi. Je sais que simplement parce que tu es plongé dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'y amène. Il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu nous remplis de ton esprit. Merci parce que tu nous donnes de grandir dans ton amour, dans ta connaissance et pour ton œuvre. Sois glorifié, sois exalté pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from heaven.